Salutations à toutes et tous, ici Romain Le Phocéen et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau Tech Time, un nouveau podcast en fait. C'est vrai que les podcasts c'est un format que je fais pas tout le temps, hein, je le reconnais, je suis pas toujours régulier, ça dépend des sujets autour des nouvelles technologies, de l'inspiration que je peux avoir, etc. Mais le podcast, hein, comme je le dis souvent, c'est un format que j'aime bien parce que c'est un format où je peux parler, etc. Et justement, ben, comme vous l'avez vu peut-être ou peut-être pas récemment, Google a annoncé donc plusieurs petites choses intéressante, hein, même plus que petite finalement. On a eu donc les Pixel 7 Pro et Pixel 7 aussi, et puis la Pixel Watch. Alors Google a parlé d'autres choses lors de sa conférence, etc. Mais nous, on va ici s'axer surtout sur les nouveaux smartphones et un petit peu la Pixel Watch. Alors de base, lorsque je fais des podcasts, souvent je parle comme ça pour parler de ce que je pense, etc. Mais ici, j'avais envie de cadrer un petit peu ce podcast Tech Time. Donc c'est-à-dire que j'ai des articles qui vont m'accompagner, des articles de presse, etc. J'en ai pris donc un pour le Pixel 7 Pro, un pour la Pixel Watch, et puis le Pixel 7, j'en parlerai un petit peu moi de mon côté. Donc comme ça, ça permettra un petit peu d'accompagner ce podcast et de le structurer aussi. Puis voilà, ça fait un petit peu aussi en même temps revue de presse, hein, si on peut dire ça comme ça, tout en parlant d'un sujet qui vous intéresse, je l'espère, et qui m'intéresse en tout cas moi de mon côté. On va donc commencer donc avec les smartphones, le Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Déjà, pour faire un petit point rétrospective, moi l'année dernière, de mon point de vue, je trouve que le Pixel 6 était le smartphone le plus intéressant. Le Pro, j'ai eu du mal à trouver un véritable intérêt à l'achat, etc. parce que la différence de tarif pour moi ne me semblait pas assez justifiée. Cette année, je trouve que Google a peaufiné la recette et on se retrouve vraiment avec une recette qui me semble beaucoup plus intéressante, que ce soit pour le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro, qui me semble justement plus justifiée. Alors, pour parler un petit peu de la fiche technique, parce que les caractéristiques techniques, je sais que certains aiment bien les entendre. Donc au niveau de l'écran, on est sur un écran OLED 90 Hz hein, sur le Pixel 7 avec un écran de 6,3 pouces. Au niveau du stockage, on est sur du 128 et 256 Go. Donc c'est du classique finalement, et au niveau même de la partie performance, on a donc Google Tensor 2e génération si je me trompe pas, avec 8 Go de mémoire vive. Sinon, après au niveau de la batterie, on est sur du 4355 mAh, on a Android 13, au niveau des caméras on est sur du 50 mégapixels et du 12 mégapixels. Le smartphone filme jusqu'à 60 images par seconde. Donc voilà, je vais pas tout détailler parce que c'est pas forcément tout n'est pas très intéressant. Voilà, après aussi on est sur un smartphone donc qui fait pratiquement 200 grammes, on est sur 197 grammes. Donc voilà, au niveau donc de ce Pixel 7 classique qu'on retrouve à 649 € donc sur plein de boutiques, sur le Google Store, sur Amazon, chez la Fnac, Boulanger, chez des opérateurs tels que Orange, SFR, etc. Donc on le retrouve un petit peu partout. Donc voilà, en tout cas ce Google Pixel 7 a été officialisé en fait lors de la Google I/O donc le 15 mai 2022. Et il a été lancé donc le 6 octobre, il est disponible actuellement en précommande. Donc voilà, on a un nouveau design qui était vraiment peaufiné, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, on sent que Google veut vraiment mettre une identité, tout en proposant une différenciation. En fait, ça c'est un truc que chez Google j'aime beaucoup, c'est que les smartphones, ils font différemment. C'est-à-dire qu'on a Apple et Samsung par exemple, qui sont vraiment les précurseurs dans le domaine du smartphone, donc c'est ceux qui sont arrivés en premier, donc forcément bah, c'est ceux qui ont aussi des grosses parts de marché. On a aussi des marques qui vont vraiment procéder différemment en passant plutôt par la tarification agressive. Je pense à Xiaomi ou encore Huawei hein, qui a fait ça aussi comme stratégie. OnePlus, on peut les mettre dans l'eau aussi. Et puis on a Google justement qui passe par une stratégie de différenciation que je trouve très intéressante et qui sur ce Pixel 7 est pour moi flagrante. On a un design qui est très Google finalement. Ça ressemble pas à autre chose, ça ressemble à un Google Pixel. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis même Android 13 finalement. Android 13 ça ressemble à Android 13. Avec Pixel Experience, avec cette patte Google qui rend finalement le hardware et le software vraiment liés finalement, et ça j'aime beaucoup de mon point de vue. Donc voilà, après ce Pixel 7, pour moi, je pense qu'il va être très intéressant. L'offre de précommande est pour moi extrêmement sexy. Hein. Vraiment, on a une Pixel Watch ou les Pixel Buds Pro, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même extrêmement sexy comme offre de précommande. Donc, honnêtement, si vous êtes intéressé par les Pixels, moi, je vous recommande de précommander le truc parce que là, vous avez une Pixel Watch offerte. Hein, donc, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. De mon point de vue, ça paraît intéressant. Pour le Pixel 7 Pro, là, on est sur un smartphone qui va coûter déjà 899 €. mais au vu de la fiche technique, je trouve pas ça déconnant. On est sur un produit qui fait 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement, si je me trompe pas, à 120 Hz, donc ça reste quand même pas mal du tout. 12 Go de RAM sont présents sur ce smartphone avec Google Tensor 2 également. Sinon, là, on a une batterie qui est forcément plus grosse avec un smartphone qui est plus gros, donc on a une batterie de 5000 mAh et avec un smartphone qui forcément aussi est plus lourd, même si c'est juste 12 grammes de plus, on est sur un smartphone qui fait 212 grammes, donc finalement le rapport me semble assez intéressant, de mon point de vue en tout cas. Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus, hein, évidemment on a de l'USB-C, mais ça c'est normal, et au niveau des capteurs, on a donc là un petit peu plus, une configuration plus importante, on a un capteur de 50 millions de pixels, un capteur de 48 mégapixels, et un capteur de 12 mégapixels, donc ça me semble plutôt pas mal, et franchement sur le papier, ce Pixel 7 Pro envoie alors vraiment du lourd, il me semble extrêmement intéressant, et surtout que quand on voit les premiers tests photographiques, les premières explications plutôt photographiques, on sent que ce Pixel 7 Pro, il y a une vraie différence par rapport au Pixel 7, donc non, vraiment là pour le coup il y a une vraie il y a un vrai intérêt en fait de prendre le Pixel 7 Pro, et c'est pour ça que j'ai décidé plutôt de m'axer un petit peu pour cette revue de presse sur le Pixel 7 Pro plutôt que le Pixel 7. Le Pixel 7, voilà, pour moi c'est un petit peu la mise à jour du Pixel 6 qui manquait au Pixel 6 avec des corrections, alors que le Pixel 7 Pro, là on est vraiment sur des véritables changements, contrairement au Pixel 6 Pro qui pour moi avait de véritables problématiques qui font que c'était complexe de justifier son tarif. En tout cas, j'avais décidé de prendre ici un article de Nextbeat, hein, j'espère que je me trompe pas au niveau de la prononciation, et j'ai pris donc quelques petits extraits qui me semblent assez intéressants. Déjà forcément ils essayent un petit peu de détailler, hein, dans l'article un petit peu donc tout ce qu'ils peuvent avoir d'intéressant à dire, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant en fait plutôt de lire la conclusion de l'article, comme ça je vous laisserai aller voir un petit peu l'article en lui-même s'il vous intéresse, donc comme ça je vais pas tout vous spoiler. Et puis surtout, ça permettra aussi à la rédaction de gagner un petit peu d'argent. Non, plus sérieusement, bon, voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu ce qui est intéressant. Donc, au niveau des premières impressions donc, du rédacteur qui a écrit ça, donc je vais le citer. En 2021, le Google Pixel 6 Pro a été marqué par l'incohérence. D'un côté, de nombreux appareils n'ont pas connu de défaillance, de l'autre, on assistait à une escalade de bugs pour des variantes distinctes entre deux mises à jour de système et un autre. Malheureusement, notre unité de test du Pixel 6 Pro faisait partie des modèles qui présentaient plusieurs problématiques. Déverrouillage lent de l'écran, consommation d'énergie élevée, problèmes occasionnels dans la qualité de l'appareil photo, bugs de ralentissement consistant du système. Donc là en fait ils font un constat, donc je ferme les guillemets, du coup ils font un constat que vraiment le Pixel 6 Pro était un appareil qui était pas bon, et je suis d'accord avec eux. Franchement le Pixel 6 Pro pour moi il était pas intéressant, et franchement l'année dernière pour moi c'était le Pixel 6 qu'il fallait acheter, et Google à travers les publicités ils ont vraiment montré que c'est le Pixel 6 qui finalement ils maîtrisaient vraiment, et le 6 Pro ils avaient vraiment du mal. Maintenant je vais reprendre donc ce qui est écrit, je vais pas tout lire non plus, mais je vais reprendre ce qui est écrit. Sans beaucoup de changements entre une génération et la suivante, mais en s'appuyant presque exclusivement sur le processeur Tensor de deuxième génération comme point fort, le Pixel 6 Pro devra prouver que Google est vraiment capable de gérer son hardware. À cet égard, je suis vraiment curieuse de voir comment ce modèle va se comparer, d'autant plus que l'iPhone 14 Pro s'est avéré être un véritable rouleau compresseur en termes de performance. Enfin, avec le Pixel 7 Pro, Google a maintenant une seconde chance de prouver que le Tensor est un processeur compétitif qui offre réellement des capacités d'intelligence artificielle que l'on trouve dans aucun autre processeur. Après tout, c'est la raison pour laquelle Google s'est lancé dans le jeu des chipsets customs. Et vous, qu'en pensez-vous du Google Pixel 7 Pro ? Justement, je vais réagir donc un petit peu sur cette question-là, donc de cet article de Nextbeat. Moi, ce que je pense du Pixel 7 Pro, c'est que justement, Google a compris que, il fallait faire un smartphone d'extrêmement bonne qualité, qu'il ne fallait pas des faiblesses, et que si tu crées des faiblesses sur un smartphone à 899€, t'es mis hors jeu directement. Et c'est pour ça, en fait, que de mon point de vue, justement, le Pixel 7 Pro, il n'a pas le droit à l'erreur. Et je pense que Google a compris, justement, que l'année dernière, ils avaient fait, pour moi, une vraie connerie, c'est de créer un smartphone qui est finalement pas, Ouais, presque pas fini finalement, et ça c'est dommage, parce que vraiment Google a pour moi des vraies capacités entre software et hardware, il y a un vrai écosystème qui est derrière, etc. Et Google pense pas juste le smartphone, il pense le smartphone pour un être humain et pour les utilisateurs. Et c'est de mon point de vue ça qui fait que, bah, que moi j'apprécie Google parce que ils ont une vision de la technologie qui est un petit peu aux antipodes de Samsung et Xiaomi, qui eux proposent plutôt des tranches tarifaires intéressantes, des fonctionnalités par-ci par-là. Je pense à ouais, Samsung et Xiaomi par exemple, on a tellement de fonctionnalités, des choses que l'on n'utilise finalement jamais, hein, c'est à part finalement les fanboys de Samsung entre guillemets pour prendre Samsung et ceux de Xiaomi du coup, mais des fonctionnalités qu'il y a, mais franchement on en connaît à peine la moitié sur ces smartphones-là, alors que chez Google justement on va plutôt vers la simplicité, on essaie de créer quelque chose pour un être humain, pour que n'importe quel être humain puisse comprendre plutôt un petit peu cet univers, etc. Lui simplifier la vie tout en ayant un espace qui lui est personnel avec justement Android 13, les couleurs qui s'adaptent un petit peu au fond d'écran, etc. C'est vraiment Google pense pour le smartphone, pour l'être humain. Et je trouve ça extrêmement fort. Et toutes les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, le fait que par exemple, je vais prendre un exemple, mais lorsqu'on est au travail, en cours, etc., qu'on reçoit un message vocal sur Google Message, on a la transcription du message vocal qui se fait en direct. Ce genre de fonctionnalité, c'est on pense la fonction pour l'être humain, on pense pas juste bêtement à ajouter une fonctionnalité comme peut le faire par exemple Samsung. Et c'est pour ça qu'aussi Samsung s'appuie vraiment sur Google de plus en plus pour ses produits, parce qu'ils savent que Samsung, leur point faible, c'est le software. Et le point fort de Google, c'est quoi? Bah, c'est le software. Donc forcément, un acteur important sur Android qui est Samsung a tout intérêt à aller avec Google, et Google aussi a tout intérêt à aller avec Samsung. Dans les deux sens, ça marche. Donc voilà en tout cas pourquoi je pense que le Pixel 7 et, enfin les Pixel 7 et 7 Pro sont intéressants. C'est parce que c'est des smartphones qui sont conçus pour être humains, qui ont toute cette faculté justement à avoir des fonctionnalités qui vont vous faciliter la vie, et qui vont pas être là justement pour être simplement des fonctionnalités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi d'ailleurs, hein, les Pixel 7 et même les Google Pixel en général, ce sont mes smartphone préféré, parce que c'est les smartphones qui pour moi représentent quelque chose en termes de différenciation. Et d'ailleurs, pour parler de différenciation, justement, le Pixel 4 avait justement quelque chose d'intéressant, c'est qu'on avait Motion Sense, quelque chose qui différencie de la concurrence. On avait un véritable Face ID finalement, donc avec Face Unlock. On avait plein de fonctionnalités comme ça qui étaient très très cool, et qu'on retrouve finalement dans toute cette génération avec des fonctionnalités de différenciation liées à l'intelligence artificielle, liées à parfois du hardware. Et voilà, maintenant Google forcément un petit peu trouvé sa direction depuis les Pixel 6, je trouve, et là le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro confirment vraiment cette règle-là. Maintenant, je vous propose un petit peu de parler donc de la Pixel Watch. Cette Pixel Watch, je vais être très sincère avec vous, j'ai un avis qui me semble mitigé. Mais voilà, j'ai pas assez travaillé le produit, mais pour 379 euros, hein, je vous le dis clairement le prix déjà, je trouve qu'elle me paraît un petit peu chère, hein, par rapport à ce qu'elle propose, hein, quand je vois par exemple une Apple Watch. Je me dis, c'est quand même pas au niveau d'une Apple Watch, hein, de mon point de vue. Donc la Google Pixel Watch, voilà, pour moi, elle a vachement un air de Watch Active 1 ou 2, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, là j'ai pris cette fois-ci un article des Numériques, donc qui ont fait un premier article, première impression, un article de Fabien Pionneau. Je suis désolé si je me trompe dans la prononciation. Donc je vais vous lire le titre: Google Pixel Watch, écran bordure, épaisseur, confort, fluidité, trois petits points, nos premières impressions. Donc voilà, en tout cas, il y a un point qui me paraît important. Donc là, on voit dans la photo, dans l'article, on parle de montre qui est compacte et confortable. Je vais lire la petite partie. C'est bien entendu son design inspiré d'une goutte d'eau qui interpelle. Voilà, tout simplement. Comme le laissent deviner les visuels et les vidéos révélées en amont par Google, la Pixel Watch est une montre assez compacte et élégante. Son format unique de 41 mm est destiné à tous les poignets, bien qu'elle risque, pardon, paraître un petit peu menue pour les plus larges. Toujours est-il, pardon, qu'on l'enfile aisément et que ses rondeurs facilitent sa disparition sous les manches longues. Sinon, après, dans les autres points, c'est que les bordures se font oublier. Ce qui est écrit et ce qui est vraiment noté, c'est que ouais, vraiment les bordures se font oublier, pardon, grâce à un verre incurvé occupant toute la face avant, la montre passe de lunettes. Ce qui ne veut pas dire que son écran est sans bordure, bien au contraire. En effet, contrairement à une Apple Watch série 7 ou série 8, par exemple, on observe encore des larges bordures noires autour de l'écran, qui laissent craindre une lisibilité réduite et un look peu désuant. Cette première prise en main nous a rassurés sur le point car l'écran paraît de taille équivalente à une Galaxy Watch 5 40 mm. Et ces bordures sont assez proches également. Donc voilà, quand on lit l'article sur les premières impressions, on a bien l'impression que justement, la Pixel Watch, voilà, c'est pas une mauvaise montre connectée, loin de là, mais c'est pas la meilleure, quoi. Donc là, voilà, il y a des bordures, en fait, c'est ce que écrit l'article. On n'a pas aussi l'effet waouh de sur cette montre connectée. Donc voilà, avec le verre incurvé. Et puis, ce qui est écrit, c'est qu'on a une fluidité malgré l'emploi d'une ancienne puce. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que voilà, on a quelque chose qui est fluide, et même selon l'article, il n'en est rien, le Wear OS 3.5 utilisé pour animer cette Pixel Watch se montre très fluide. Le lancement de certaines apps pourrait être plus rapide, mais cela reste globalement réactif. Nous voici donc rassurés. Donc voilà, clairement, on est sur un produit qui me semble, de mon point de vue, et de leur point de vue en tout cas, intéressant. Mais voilà, on est évidemment sur un article première impression, et donc c'est pour ça que c'est compliqué comme ça de tirer une véritable conclusion maintenant, mais voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc pour cet article du vendredi 7 octobre 2022, donc, qui est sorti à 17h20, on a un premier bilan qui me semble intéressant. Donc évidemment, ils ont seulement pris en main la Pixel Watch pendant quelques minutes, donc c'est compliqué de faire un test complet, etc. Mais en tout cas, selon eux, ils ont eu suffisamment pris le temps pour bien la manipuler et observer son design plus en détail, et puis voilà, voir un petit peu au niveau de la fluidité, donc c'est quand même plutôt pas mal. Je vous invite à aller évidemment lire leur première prise en main, et puis évidemment il y a d'autres médias qui en ont parlé, mais cette Pixel Watch, voilà, c'est vraiment le fruit d'une stratégie Google avec Fitbit. Donc Fitbit, vraiment, il reste indépendant finalement à Google, c'est-à-dire que même après le rachat, il n'y a pas de transition entre les données Fitbit et Google. Donc je pense que pour l'utilisateur, c'est assez rassurant de savoir que finalement ces données vont pas être traitées non plus de la manière dont Google a cette image-là, vraiment, de traiter les données, etc. Donc très intéressant, ça, le fait que Google, même s'il y a un petit peu de marketing derrière, s'intéresse aussi au sujet de la vie privée, de maîtriser un petit peu cette vie privée, parce que voilà, Google, son business model, ça reste quand même tout ce qui est publicité, etc. Mais voilà, le fait qu'on peut de plus en plus maîtriser ce que l'on fait finalement sur Internet avec Google, les espaces qui sont dédiés au niveau de la confidentialité, que l'on ne va pas assez voir, je pense, etc., ça me semble intéressant. Et avec cette Pixel Watch et donc Fitbit, etc., Google va encore de plus en plus dans cette direction. Donc voilà un petit peu pour ce podcast, hein. C'était vraiment pour faire un premier point. Je sais pas depuis quand j'enregistre, hein, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas mal parlé. En tout cas, j'espère que voilà, ce petit point un petit peu autour donc d'articles que j'ai à l'appui vous intéresse. Voilà, comme ça me permet aussi de mon côté de parler un petit peu d'actualité de temps en temps, sans pour autant avoir faire de grosses préparations de podcast, hein, juste sélectionner quelques articles. Donc voilà, ça ressemble, je sais, peut-être un petit peu trop à une revue de presse, hein, donc je sais pas si ce format vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire, en tout cas je serais curieux de savoir. Et puis après, évidemment, je reprendrai des podcasts sous d'autres formes différentes, etc. Donc j'essaie des trucs, de toute façon, de podcast, honnêtement. Mais voilà, en tout cas, même sur TikTok, c'est des formats qui peuvent être intéressants. Bon, pas si longs, mais des formats d'une minute où je parle d'une actualité, etc. D'une ou deux minutes, ça peut être bien aussi de temps en temps de faire ça. Parce que sur TikTok, honnêtement, j'ai envie de tester plein de nouveaux petits formats. Alors autant ça va faire quoi, 500 vues, hein, peut-être ça va pas du tout marcher. Mais j'ai envie de tester un petit peu des nouvelles choses sur TikTok, parce que les formats que je fais actuellement me plaisent, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de tester des choses. Sur YouTube, pareil, hein, honnêtement, j'ai envie de tester des nouvelles choses aussi. De parler de tech un petit peu différemment parfois, etc. De manière un petit peu plus directe aussi. Donc voilà, il faut que j'essaie des choses. C'est encore en travaillant. Enfin ouais, c'est encore en cours de réflexion, etc. Donc voilà, mais je prends le temps, évidemment, je me presse pas. Et puis évidemment, j'essaie de faire un maximum de vidéos, mais avec le travail, avec tout ce qu'il y a autour, c'est parfois un petit peu compliqué de faire une vidéo tous les dimanches. Mais voilà, j'essaie un petit peu aussi de varier les différents formats. Là, vous voyez, je fais un podcast, et puis parfois ce sera plutôt une vidéo, etc. Mais le podcast, moi, je le prends comme un format plaisir, un format où je me fais plaisir, tout simplement. C'est un format où je gagne 0 €, hein, par contre, je vous le dis très honnêtement. Donc voilà, c'est un format que je monétise pas du tout, parce que je ne sais même pas vraiment comment ça se monétise vraiment. Enfin bref, je crois qu'on peut mettre de la publicité, mais honnêtement, voilà, vous êtes peu à l'écouter. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire subir de publicité. Comme ça, voilà, vous êtes tranquille, vous écoutez votre podcast tranquille, Tech Time, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je pense que pour un prochain podcast, je vais essayer d'avoir un invité, un intervenant, parce que j'ai discuté avec deux, trois personnes dernièrement et ils ont des sujets qui sont très intéressants, notamment sur la productivité, sur ce genre de choses. Et je pense que ça peut être intéressant. Alors, soit je vais les avoir en physique si c'est possible, mais c'est nous en visioconférence pour voilà, que vous ayez aussi de temps en temps des épisodes un petit peu sur ce podcast-là. Mais voilà, je trouve que ça me semble assez intéressant aussi d'avoir parfois des invités, des personnes qui puissent un petit peu parler aussi dans ce podcast. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ces idées-là aussi vous intéressent. Et puis moi, voilà, je vais conclure ce nouveau Tech Time sur les pixels de Google, donc les Pixel 7 et 7 Pro ainsi que la Pixel Watch sur ça. Évidemment, je m'excuse, j'ai pas pu parler de tout ce qu'a annoncé Google parce que ils ont annoncé plein de petites choses intéressantes, hein, des choses qui sont finalement parfois innovantes, que l'on a tendance pas toujours à mettre en avant, etc. Mais voilà, je pense quand même avoir parlé du principal avec le Pixel 7, 7 Pro et justement cette Pixel Watch. Mais voilà, comme je l'ai dit, Google a annoncé d'autres choses, des fonctions, etc. Donc j'essaie d'en parler un petit peu, mais c'est toujours compliqué de parler de tout parce que sinon le podcast va vraiment faire 1h20, donc c'était pas le but non plus. Le but c'est qu'il fasse un petit peu moins d'une demi-heure, donc comme ça, voilà, pendant un petit trajet de voiture, de bus, de métro, etc. Donc ça peut le faire. Donc voilà, allez, sur ce, je vous laisse donc sur ces propos. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, parce que avoir des retours c'est important, notamment sur Discord. Je sais que certains écoutent tous les podcasts que je réalise, donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et quant à moi, je vous retrouve donc bientôt pour un nouveau podcast. Je ne sais pas quand, malheureusement, parce que c'est compliqué à configurer. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et sur ce, je vous retrouve donc bientôt pour un nouveau Tech Time. Allez, salut, salut!